en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, on l'appelle volontiers l'architecte de la matière. Il a eu 4 vies de scientifique bien distinctes et notre invité a été récompensé pour l'ensemble de ses travaux en 2010 par la médaille d'or du CNRS. En habit vert reçoit dans cette émission le physico-chimiste Gérard Ferret. Gérard Ferret, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes chercheur en physico-chimie des solides et des matériaux inorganiques ou hybrides. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et professeur émérite de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez été directeur adjoint du département des sciences chimiques du CNRS avant de créer et de diriger l'Institut Lavoisier de Versailles. Au cours de cette émission qui vous est consacrée, Gérard Ferret, nous allons parler de vos débuts en tant qu'instituteur, de votre retour à l'Université de Caen pour travailler dans la recherche en chimie, des différents laboratoires où vous avez travaillé, de l'Institut Lavoisier à Versailles que vous avez mis sur place et de vos découvertes sur les hybrides poreux dont les perspectives d'application sont nombreuses dans le domaine de l'énergie, du développement durable ou de la médecine. Alors Gérard Ferret, vous avez été instituteur pendant 3 ans avant de retourner à l'Université de Caen. Et vous tenez souvent dans les interviews à parler de cette période de votre vie. Alors, est-ce que vos années d'instituteur ont été un moteur pour vous lancer dans la recherche par la suite ?
En aucun cas. J'ai été instituteur parce que j'étais élève de l'école normale d'instituteurs. Et bien normalement, à la fin des 4 ans, on nous attribuait un poste, et le poste qui m'avait été attribué dans ma campagne normande, c'était ce qu'on appelait à l'époque les groupes d'observation. C'est-à-dire c'était une 6e et une 5e, où j'enseignais toutes les matières. Ça a été une expérience fabuleuse, passionnante, parce que j'avais 18 ans et mes élèves avaient presque le même âge que moi. C'était la campagne profonde, donc il fallait expliquer simplement, avec des mots simples, et essayer d'emmener le plus grand nombre vers la connaissance, et pour moi ça a été un apprentissage absolument fabuleux, vous savez. On voit qu'un enfant a compris quand ses yeux commencent à s'éveiller. Et c'est comme ça que j'ai regardé l'impact de mes leçons, pas en disant « j'ai fait ma leçon ». Voilà. Et ça a duré 3 ans, et c'était une expérience merveilleuse.
Mais au bout de 3 ans, vous avez décidé de changer de direction.
Ça n'a pas été une décision uniquement personnelle. Au bout de 3 ans, j'ai reçu un coup de téléphone de mon ancien directeur d'école normale qui m'a dit « Ferret, passez à mon bureau pour une affaire vous concernant ». Je me demandais bien quelle sottise j'avais pu faire 3 ans avant, et j'y suis donc allé. Et il m'a dit, voilà, Ferret, j'ai l'occasion d'envoyer de mes anciens élèves au centre de formation des profs de collège. C'est à Caen, vous suivrez les cours de la fac, mais vous avez 30 secondes pour me dire oui ou non, parce que vous n'êtes pas le seul. Et j'ai dit oui. Et c'est comme ça que je suis reparti à la fac, et là où je suis tombé sur des... J'avais déjà le goût de la chimie grâce à une prof en classe de bac, qui m'avait montré l'aspect à la fois fascinant et simple de la chimie. Et là, à Caen, je suis tombé sur 2 profs absolument extraordinaires. L'un qui montrait que la chimie était simple, l'autre que c'était un mystère. Alors vous savez, le mélange des deux, eh ben, ça vous donne l'envie. Et puis voilà, et puis au bout de 2 ans, une autre prof, qui est une vieille dame adorable, très provocatrice, est venue voir en salle de thépure, me dit « Ferret, ça vous intéresserait de faire de la recherche ?» Ce à quoi je lui ai répondu « Mais madame, je ne sais pas ce que c'est que la recherche. » Elle m'a dit « Mais où est le problème ? Venez au labo. » Je vous prends pendant 1 an, puis vous déciderez. Et puis j'ai eu le virus, voilà.
Vous avez le virus de la recherche.
Voilà, tout à fait. Ça a été une découverte. Ça a été la découverte du combat permanent avec la matière, la connaissance de la matière. La matière est très pudique, vous savez, elle ne se dévoile pas comme ça. Et donc j'ai appris, non pas à la rendre impudique, mais à connaître ses secrets. Et ça a toujours été ma motivation. Elle est intacte, après 50 ans.
Alors après quand vous intégrez le département chimie de l'IUT du Mans, où là oui. Vous allez travailler en tant qu'assistant. Là c'est un nouveau laboratoire, ça fait partie de vos 4 vies scientifiques, car c'est ainsi qu'on décrit vos parcours.
C'était la deuxième.
Deuxième.
Puisque donc après ma thèse de 3e cycle, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce poste et de créer l'Institut universitaire du Mans, enfin le département chimie, avec 2 ou 3 de mes amis. Et ça a été là aussi une nouvelle expérience. D'abord, la première année, on a fait les plombiers, les électriciens, on n'a pas fait de recherche parce que tout était à construire. Plus, vous voyez, c'était 68, c'était pas une année extrêmement tranquille. Et simultanément, je suis rentré dans le laboratoire de Robert Depape, qui était un jeune chimiste du solide, et la discipline était nouvelle, et donc je me suis initié à cette recherche. Et je l'ai quitté disons, il y a une dizaine d'années, quitté partiellement, puisque j'ai toujours les fondements de la chimie du solide qui m'aident dans ma dernière vie scientifique, mais je ne suis plus au sens strict du terme un chimiste du solide.
Alors vous le disiez à l'instant, effectivement, vous vous attaquez à la chimie du solide et vous vous rapprochez des physiciens. Vous êtes plutôt chimiste à la base, mais vous vous rapprochez des physiciens et vous vous intéressez à la cristallographie.
Voilà.
La cristallographie qui se consacre à l'étude des substances cristallines à l'échelle atomique. En quoi la cristallographie va-t-elle être un levier dans votre parcours ?
Je me resitue à la fin des années 60. Les chimistes, c'est d'abord des créateurs de la matière. Donc on faisait nos mélanges, on regardait les poudres, et à ce moment-là, en tant que chimiste, on se contentait de la photo d'identité. C'était un spectre de rayons X sur poudre, qui est juste une photo d'identité, si vous voulez, qui permet de reconnaître si la phase est nouvelle ou inconnue. Et ça s'arrêtait là. Or, si on veut aller plus loin, il faut connaître la structure intime de la matière. Et donc, grâce à un collègue de Rennes, on a pu s'initier à la cristallographie. La cristallographie, si vous voulez, c'est un livre. C'est-à-dire que la cristallographie vous permet de positionner les atomes dans l'espace. Mais la cristallographie proprement dite, c'est une succession de calculs qui vous donne à la fin une table de coordonnées atomiques, et la cristallographie s'arrête là pour un physicien. Il a fait son travail, c'est une science merveilleuse qui demande des connaissances sur les interactions rayonnement-matière qui sont assez musclées. Mais pour un chimiste, ce n'est pas suffisant. Vous savez, on aime bien les images. En chimie, on aime bien les images. Et donc, le métier de cristallochimiste allait juste après le métier de cristallographe. C'est-à-dire qu'il faut représenter l'arrangement des atomes dans l'espace, donc être capable de faire des figures. Et je disais tout à l'heure que c'était un livre, parce qu'une fois qu'on regarde bien la structure et qu'on ne s'arrête pas simplement à un beau dessin, l'examen de cette structure vous donne déjà des idées sur les propriétés que pourront avoir vos solides, sur les énergies mises en jeu, et ça permet de retourner à la chimie avec d'autres idées pour faire d'autres solides, d'autres structures, etc. Donc c'est un jeu. C'est devenu un jeu pour moi, passionnant, et maintenant c'est devenu extrêmement banal, tout au moins quand on a des cristaux, parce que les progrès technologiques ont fait que maintenant c'est du presse-bouton un peu. Quand on a un cristal, une structure, ça se fait dans la journée, alors qu'avant, ma première structure, j'ai mis 2 ans. Bon, ça vous donne le raccourcissement du temps, ce qu'on gagne en temps, on le perd en curiosité. Donc c'est sans nostalgie ce que je vous dis là, mais je regrette que maintenant la majorité de nos jeunes se contentent d'un beau dessin, elle ne regarde pas.
Il se contente
de la photo
d'identité.
Moi, j'aime bien le portrait psychologique. Voilà.
Le portrait psychologique de la cristallochimie.
Oui.
C'est la cristallochimie qui va vous aider quelques années plus tard à travailler sur ces hybrides poreux. Alors, on va y venir dans quelques instants.
On y reviendra.
On y reviendra, puisque au cours de votre carrière, vous laissez un peu la cristallochimie de côté. Vous allez y revenir un peu plus tard. Et en 1971, vous effectuez un séjour à Grenoble pour l'apprentissage du magnétisme macroscopique et la découverte de la diffraction des neutrons. Et là, je pense qu'on s'éloigne de la chimie.
Oui et non. Oui et non, parce qu'au Mans, vous savez, c'était la plus petite fac des sciences en France. Elle a été créée en 67, l'université du Maine. Et nous étions une bande de jeunes, pas déformés par l'habitude, et j'avais des collègues physiciens. Et travaillant sur des solides minéraux, très vite, on a éprouvé la nécessité d'échanger. Donc on a appris à parler ensemble, ce qui n'est pas le plus facile. D'habitude, vous avez ces querelles de chapelle entre la chimie, la classification d'Auguste Comte a toujours fait beaucoup de dégâts. Mais là, nous, on l'a ignoré, on parlait ensemble, et ce qui fait que j'ai été amené progressivement à la physique. Mais vous faites appel à cette année de 1971 où j'ai eu la chance énorme de ma vie, c'est de rencontrer un homme extraordinaire qui s'appelait Monsieur Berthaud. Je l'appelle toujours Monsieur, je ne peux pas l'appeler par son prénom, vu le respect que je lui porte, qui assistait à un séminaire et qui est venu me voir après, alors que je venais de présenter une communication dans les différences quasi générales. Et il est venu me voir après, il me dit « Ferré, c'est pas mal votre produit, il faut faire du magnétisme là-dessus ». Je dis « Monsieur Berthaud, le magnétisme, je suis chimiste, je ne sais pas ce que c'est ». Il me dit « Où est le problème ? Il faut venir à Grenoble et je vous l'apprendrai ». Et il l'a fait, avec toute l'exigence qui était la sienne. Vous savez, c'était quand même quelqu'un qui a commencé comme avocat pour finir physicien théoricien, en passant par toutes les gammes de la science, donc une culture absolument fantastique, doublée des qualités humaines extraordinaires. Et donc c'est grâce à lui que je suis rentré dans la communauté des grands instruments, donc la diffraction de neutrons, la diffraction des électrons, etc. Et ce qui m'a permis de faire un pas supplémentaire dans la connaissance de la matière, mais cette fois-ci qui alliait physique et chimie. Et c'était plus chimie ou physique, c'était les deux. Et ça, dans ces cas-là, 1 plus 1, ça fait 3.
Voilà. Donc Gérard Ferret se transforme en physico-chimiste.
Voilà, et j'en suis fier.
Je vous propose de marquer une pause, si vous le voulez bien, Gérard Ferret. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Environnement, développement durable, énergie verte, Canal Academy vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens. Que ferons-nous sans pétrole? Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre? Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique? Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir? Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademy.com.
Suite de notre émission en avis vert en compagnie de Gérard Ferret. Gérard Ferret, nous avons fait une pause, nous revoici au cours de cette émission. Il semble que vous soyez toujours à contre-courant. Est-ce que vous êtes un homme qui s'ennuie souvent, ou rapidement en tout cas? Est-ce que régulièrement vous avez besoin de changer d'air et de changer d'activité?
Scientifiquement, oui. Dans la vie, je ne m'ennuie jamais. Vous savez, s'ennuyer, c'est un manque d'imagination. Mais scientifiquement, oui, au bout de à peu près tous les 10 ans, quand j'estime avoir fait le tour de ce que je pouvais raisonnablement faire, j'ai pas envie de faire, comme disait Hubert Curien, de la recherche Xerox, c'est-à-dire la routine qui s'installe. Non, à ce moment-là, j'arrête, je fais autre chose qui m'intéresse. Donc, ce qui explique mes 4 vies scientifiques.
Alors, venons-en justement en 1988, une autre vie scientifique où vous devenez directeur adjoint du département des sciences chimiques du CNRS. Vous faites ça pendant 4 ans, où là, vous passez de l'autre côté du miroir, si je puis dire.
Tout à fait.
C'est vous qui donnez les crédits aux chercheurs.
Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'accepte cette proposition? C'est parce que pendant ces 10 ans qui avaient suivi ma rencontre avec M. Berthaud, j'ai travaillé sur la frustration magnétique. Du point de vue du chimiste, allant souvent à contre-courant d'idées reçues du côté de la physique, dans la limite de mes faibles moyens, bien sûr. Et au bout de 10 ans, je commençais vraiment à m'ennuyer. Donc on me propose de prendre le poste de directeur adjoint au département chimie, donc je dis oui. Michel Ferriard, le directeur de l'époque, me confie très rapidement les finances. Donc effectivement, je passe de l'autre côté de la barrière, de solliciteur, je deviens pourvoyeur. C'est un autre métier.
Et en faisant très attention justement aux petits labos qui auraient besoin de crédit et qui auraient pu éventuellement être oubliés par-ci par-là.
Tout à fait. Bon, sans rentrer dans les détails, vous savez, les petits labos de province à cette époque-là, même s'ils étaient soutenus, reconnus quelquefois, ne roulaient pas sur l'or. Par contre, des labos bien établis, essentiellement sur Paris ou dans les grands centres de province, n'avaient pas ce genre de problème. Donc, ils s'instauraient quelquefois, rarement, disons-le, mais une espèce de, sinon de copinage, du moins de facilité qui choquait un peu mon sens de la justice. Donc, j'ai regardé un peu les archives des finances et en fonction de ces critères, grâce à l'aide d'une jeune dame qui se reconnaîtra. Après, j'avais une vision complète de ce que les gens avaient reçu dans les 15 dernières années en fonctionnement, en crédit exceptionnel, en équipement. Ce qui m'a permis, lorsque les gens demandaient quelque chose, de savoir exactement si c'était raisonnable, en fonction de l'âge des appareils, ou pas. Ou si c'était soit une coquetterie, soit un besoin nouveau. À ce moment-là, il fallait l'expliquer. Donc voilà. Et effectivement, les labos de province en sont souvent bien portés. Parce que, moi étant provincial, je connaissais les soucis de ces labos de province, surtout les petits. Et donc, ce qui en valait la peine, j'ai quelquefois triplé les crédits. Oui, voilà.
Alors, ce souci d'équité et quelque part de décentralisation, alors?
Non, vous voyez, c'est pas l'aspect décentralisation qui m'a poursuivi, c'est la qualité. Vous savez, en science, c'est comme en musique, il y a la bonne et la mauvaise. Hein. Donc, je dis pas qu'il y a la recherche fondamentale d'un côté, la recherche appliquée de l'autre. Il y a de la bonne et de la mauvaise. Et la bonne, on le trouve partout. Il n'y a pas des centres privilégiés, des lieux bénis, même si les grosses agglomérations scientifiques, bien sûr, ont un passé. Mais vous savez, ce qui compte aussi, c'est les nouvelles pousses. Une forêt, il y a les grands arbres, mais on veille à ce qu'il y ait de nouvelles pousses. Et souvent, ils sont en province. Donc, il faut leur regarder très vite et leur les aider très vite, de manière à ce qu'ils démarrent vite. Vous savez, notre milieu, c'est un milieu de compétition. Si on rate le départ, c'est comme un 100 mètres. On ne rattrape pas.
Alors, vous occupez ces fonctions pendant 4 ans?
Oui, pas plus.
Et puis après, vous partez?
Bien normalement. Écoutez, j'avais fait ce que j'avais à faire. Je n'avais pas envie de rentrer dans la routine de la gestion de la science. Donc, il fallait que je me ressource et que je revienne dans mon labo d'origine, mais en arrêtant de faire ce que je faisais avant. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Poreux. Voilà.
Une autre vie scientifique, là encore un peu différente. Alors, en 1996, vous mettez sur place l'Institut Lavoisier de Versailles.
Bon, on l'a proposé en 1994. Et on a mis 2 ans à se décider. Vous savez, c'est une université qui a été créée ex nihilo. C'est Claude Allègre qui a créé ces 4 nouvelles universités. Hein. Et l'administrateur provisoire de l'époque, qui s'appelait Michel Garnier, alors que ces nouvelles universités étaient censées faire des actions d'enseignement, Michel Garnier a voulu qu'il y ait de la recherche dans cette nouvelle université, est allé voir le CNRS, le ministère, en disant « Voilà, je voudrais créer de la recherche en matériaux, trouvez-moi quelqu'un qui est disposé à le faire. » Et là, j'ai été invité, et je suis tombé dans un traquenard, mais un bien agréable traquenard, par le successeur de Michel Fayard et son homologue au ministère, qui m'ont dit « Écoute, est-ce que ça t'intéresse de monter la recherche à Versailles ?» Bah, 55 ans, c'était un défi intéressant. Bah, j'ai dit « Pourquoi pas, mais ça dépend de ce qu'on met dans la corbeille de la mariée. » Et là, disons qu'on a mis 2 ans à converger, quoi. Et les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc, ayant été au courant des 2 côtés de la barrière, je savais ce que je voulais et je savais ce que de l'autre côté les gens pouvaient faire. Donc, on a mis 2 ans. Et le labo a été créé le 1er janvier 1996.
Et vous le dirigez ?
Je le crée, je le dirige, oui. Autre expérience passionnante, parce que j'étais le grand-père. À part quelques collègues de mon âge qui m'avaient rejoint, sinon, je n'avais que des jeunes. Fantastique. Fantastique. En plus, l'expérience de créer ex nihilo quelque chose, vous savez, dans notre métier, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de lubie, il n'y a pas de passé. Ça veut dire que vous pouvez créer quelque chose avec les idées qui vous sont propres et avec les moyens afférents. Donc, c'est une aventure fantastique.
Mais avec aussi des objectifs, j'imagine.
Mais bien sûr, sinon je n'aurais pas accepté. Bien sûr que j'avais des objectifs, mais au départ, ils étaient purement fondamentaux. Précisons-le bien. Je déteste être intelligent a posteriori, vous savez. Mes objectifs étaient purement fondamentaux. Et donc, avec ce nouveau sujet que je lançais à l'époque sur les solides poreux...
Donc vous repreniez la cristallochimie que vous aviez laissée de côté quelques temps auparavant, et vous l'avez remise sur le marché, si je puis dire.
Quelque part, mais je ne voudrais pas passer sous silence, et je reviens à M. Berthaud. Quand j'étais à Grenoble, et que je lui montrais mes résultats pendant mes stages, parce qu'il était très exigeant, il me disait, oui, oui, Ferré, c'est bien, mais pourquoi vous trouvez ça? Vous savez, la question, elle est fondamentale. Oui, mais pourquoi? Eh bien, je l'ai appliqué quand je suis arrivé dans les poreux. Bien sûr, j'ai fait comme les copains. J'ai fait de la pêche à la ligne au départ. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une corrélation entre les structures que j'obtenais et puis les conditions chimiques que j'imposais. Et je me suis posé la question. Oui, mais pourquoi? Et là, avec mes jeunes, parce que c'est toujours avec mes jeunes, c'est jamais Gérard Ferré, on n'est jamais tout seul. Eh bien, on a mis 4 ans à comprendre. Non plus à tester, mais à comprendre. Ce qui fait après, on avait la règle du jeu, alors que les autres continuaient à faire de la pêche à la ligne. Donc on a, entre guillemets, perdu 4 ans, mais on en a gagné 10, et maintenant on a 5 ans d'avance.
Et là encore, à être à contre-courant, dans le sens où vous faisiez une recherche globale.
Contre-courant, oui, parce que les gens faisaient, ils découvraient, mais c'était, disons, et de la systématique et du hasard. Moi, j'ai voulu comprendre. Alors ça, c'était à contre-courant. Dans le milieu des poreux, c'était à contre-courant, je peux vous le dire. Voilà.
Alors venons-en justement à ces nouveaux matériaux que vous avez découverts avec ces équipes jeunes, une jeune équipe.
Ah oui, je suis le grand-père de mon groupe.
Donc vous allez pouvoir nous parler de ces petits-enfants, vous allez pouvoir aussi nous parler de ces matériaux qui portent des noms un peu curieux, vous allez pouvoir nous dire qu'il en est.
C'est l'habitude du milieu, si vous voulez. Dans le milieu des poreux, c'est toujours des formules extrêmement compliquées, assorties d'une nomenclature absolument abominable. Donc, on a pris l'habitude dans le milieu, et ça fait des années, des dizaines d'années, de désigner toute une nouvelle famille de composés par 3 lettres. Un acronyme qui correspond souvent à l'origine géographique. Et nous, ben, je les ai appelés les matériaux de l'Institut Lavoisier. Donc l'acronyme, c'est 1000. Voilà. Et donc, maintenant, dans le monde entier, on parle des 1000. Voilà.
Donc on a le 1101.
Celui-là, c'est...
Qui, je crois, est la vedette de l'Institut Lavoisier.
Vous savez, j'ai découvert, parce que d'aucuns ont fait des recherches biométriques, j'ai découvert que le papier qu'on avait fait sur ce 1100 dans Science est le papier le plus cité en chimie, depuis 5 ans. Pour moi, ça a été une découverte. Je ne suis pas un adepte de l'épicerie de la bibliométrie. Je fais de la science, elle plaît ou elle ne plaît pas.
Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un 1000, et encore plus le 1101. On parlera d'un autre après, mais celui-ci déjà.
Ben, comme tous les 1000, vous savez, c'est donc un système poreux. Alors, c'est-à-dire qu'à l'échelle atomique, il y a répartis de manière extrêmement régulière dans l'espace des trous, ce qu'on appelle les bords. Et ce qui borde les trous, bien sûr, c'est un squelette d'un assemblage d'atomes. Et ces milles ont ceci de particulier qu'une partie des atomes, ce sont des atomes minéraux, des ions métalliques, et l'autre partie, ce sont des molécules organiques. Et parmi les rares, j'ai eu l'idée saugrenue d'essayer d'assembler ces deux types de briques. J'en parle toujours en termes de briques. Et donc, comprendre, ça voulait dire que quelles étaient les briques pendant la réaction, pas après, mais pendant. Et disons, pendant 4 ans, on a réussi, au bout de 4 ans, à identifier les briques, et on a trouvé au bonheur que ces briques qui existaient toutes seules dans la solution, travaillaient dans des autoclaves, hein, à 200 degrés, donc on ne voyait rien. Et ces briques étaient les mêmes que celles que je voyais dans le solide final. Donc à ce moment-là, c'était expliqué. Et à ce moment-là, j'ai pu faire effectivement du Lego. D'accord ? Et alors ce Lego dépend de la forme de la molécule organique, dépend de la grosseur de la partie minérale, et c'est ces longueurs et ces formes qui déterminent les dimensions des trous. Donc dans ces cas, le 1101 est un exemple particulièrement significatif, eh bien vous avez des assemblages de ce qu'on appelle les super tétraèdres minéraux, avec des ligands organiques qui sont des bicarboxylates, des terephthalates. Et alors, leur arrangement est tellement superbe, tellement merveilleux, que ça donne des trous absolument énormes. Énormes. C'était la première fois qu'on voyait des solides par le mésoporeux, c'est-à-dire que les dimensions de pores sont supérieures à 2 nanomètres, et qui étaient en même temps cristallisés. Donc ça a été la grosse surprise. Mes collègues américains parlaient même de tour de force. Et on l'avait prédit, puisqu'on savait les briques, donc on avait regardé, on avait prédit son existence avant de l'isoler. Alors c'est toujours qualifié de tour de force, mais tout simplement parce que les autres n'ont pas pris le temps de comprendre. Mais moi, je ne considère pas ça comme un tour de force. Et puis donc, ça fait des gros trous, et c'est là que j'ai commencé à joindre le fondamental à l'appliqué. Vous savez, c'est pas moi qui ai dit « la nature a horreur du vide », c'est Aristote. Eh bien, j'ai suivi Aristote. Qu'est-ce que je peux mettre dans ces trous que j'ai créés ? Alors, on a essayé beaucoup de choses. Des gaz. Et là, c'est les gaz polluants, comme le CO2, mais il n'y a pas que le CO2. Le CO2, c'est la vedette des gaz polluants, des gaz à effet de serre. Mais il y en a plein d'autres. Il y a les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, le monoxyde de carbone qui fait tellement de dégâts, etc. Mais il y a aussi des gaz utiles, comme l'hydrogène, dont certains pensent que ça va devenir un vecteur énergétique pour l'avenir.
Et qui donc, avec le MIL, pourra stocker cet hydrogène pour les piles à combustible.
Mais vous savez, l'hydrogène, quand il est tout seul, avez-vous une idée de la vitesse d'une molécule d'hydrogène ? Elle fait 2 km par seconde. Par seconde. Ah, vous savez, quand vous avez des gaillards comme ça qui vont très vite, pour les arrêter, il faut s'en occuper. Et donc, nos trous, au lieu de passer au travers, ils butent dedans et ils se fixent. Malheureusement, à très basse température, trop basse température. Mais au moins, le phénomène fondamental est là. Mais je ne suis pas le seul, attention, on est plein à travailler sur le stockage de l'hydrogène. Mais je suis extrêmement réservé sur l'avenir de mes produits, sur le stockage de l'hydrogène, parce que la température est trop basse. Imaginez, avec les applications qu'on peut imaginer derrière, dans les voitures par exemple, il faudra stocker l'hydrogène, mais ça veut dire qu'il faudra, à côté du stockeur, une petite usine d'air liquide, et ça veut dire que le prix de revient va être prohibitif. Donc, je suis extrêmement prudent sur l'application de mes produits, de nos milles, dans ce domaine. Mais au moins, on sait exactement où l'hydrogène se fixe. Et ça, c'est une information importante. Alors ça, c'est les gaz utiles. J'ai parlé des gaz à effet de serre. Donc là, on a vraiment le record du monde, c'est vrai. Vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, vous imaginez, vous prenez un litre de notre produit, de notre poudre, c'est une poudre banale. Eh bien, il stocke 400 litres, 400 fois son volume de CO2. C'est énorme. Là, on a fait exploser le record du monde, plus de 25% d'un coup.
Mais c'est absorbé, c'est-à-dire, est-ce que ça gonfle ? Est-ce que cette poudre gonfle ? Même pas ?
Celle-là ne gonfle pas. Vous évoquerez peut-être la matière qui respire après, mais celle-là ne gonfle pas. Elle est rigide, donc on peut mettre ces quantités énormes de CO2 et le volume de la poudre ne bouge pas.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'on va pouvoir résoudre ce problème de CO2 dans l'atmosphère ?
Non. Vous savez, ça, c'est le labo. C'est le labo, c'est l'expérience sur quelques grammes. Et il ne faut pas tromper le public. Entre cette découverte de laboratoire et l'utilisation éventuelle dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'étapes à respecter. Il y a d'abord ce qu'on appelle le scale-up, ou le changement d'échelle, c'est-à-dire passer de l'échelle laboratoire à l'échelle d'abord d'une centaine de kilos, puis de la tonne, puis de la dizaine de tonnes. Ça, on ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier. Par contre, c'est le métier des industriels. Et je travaille avec des industriels, et donc tous les problèmes techniques de scale-up, de changement d'échelle, sont résolus. C'est-à-dire qu'on sait faire, pour l'instant, dans l'unité pilote, on fait couramment 1 tonne jour. Couramment. et reproductible. Ça, c'est le premier point. Le changement d'échelle pour, d'un produit intéressant, le transformer en produit utile. Imaginons qu'on soit capable de faire 100 tonnes. On sait les faire. C'est un industriel qui va les faire. Or, ces composés sont nouveaux. Il n'y a donc pas de marché. Un marché, ça se crée. Et ça coûte très cher. Et on est en pleine crise économique. Alors mettez-vous à la place d'un industriel. Il a la recette. Il a trouvé le partenaire universitaire pour travailler ensemble. Et on travaille merveilleusement ensemble, je tiens à le dire. Il a la recette. Il sait le faire en grande quantité. Mais il n'y a pas de marché. Et les investissements financiers sont considérables. C'est des centaines de millions d'euros. Cette échelle-là, hein. Il n'y a pas de marché, donc c'est un risque financier. Et je ne vous apprendrai pas qu'on est en pleine crise économique, même si d'aucuns disent qu'on en est sorti, j'y crois pas. Elle est encore en face de nous. Donc je me mets à la place de nos amis industriels. C'est un pari financier tellement considérable que pour l'instant, ils sont prudents. Donc une fois, imaginons, allez, on sort de crise, il va donc falloir créer le marché. Donc il va falloir faire de la publicité, du marketing, convaincre les autres industries utilisatrices du bienfait de ce produit. Ça veut dire qu'il va falloir en distribuer gratuitement pour que les gens soient convaincus. Ça demande des années. Donc, dans le meilleur des cas, et je ne fixerai pas de frontières temporelles, si vous voulez, mais ça se compte en nombre d'années.
Vous voulez dire que parce que ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas le marché, ça peut ne pas voir le jour parce que tout simplement ça n'existe pas, alors qu'à la base, c'est quelque chose de totalement novateur.
Mais tout à fait, tout à fait. Vous savez, il y a des découvertes sensationnelles qui ont été dans les laboratoires, qui n'ont jamais vu le jour. Mais ce n'est pas étonnant. Moi, ça ne me choque pas. Ma longue fréquentation du milieu industriel, dans le respect, et je tiens à le dire, avec les gens que je travaille, c'est du respect réciproque, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils ont expliqué un peu leurs contraintes. Tous les risques financiers sont pour eux. Nous, on est payés pour chercher, même si ça n'est pas des fortunes. On a l'assurance de l'emploi. Donc, on a tout le temps pour imaginer, pour créer. Eux, ils sont toujours contraints à la concurrence, à l'innovation et au débouché. Et je conçois, si vous voulez, que pour l'instant, ils hésitent. Peut-être que dans 2 ans, si on sort de la crise, ils diront « banco, on y va ». Et là, c'est ravi, parce que tous les problèmes amont sont résolus, les problèmes techniques sont résolus. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire. Donc il faut être prudent, et une fois de plus, il ne faut pas raconter de salade au public. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une découverte en laboratoire que d'un seul coup, vous allez trouver ça sur le marché le lendemain. C'est des années. Et il faut que le public l'intègre, mais qu'il croit quand même au progrès de la science. Et ça, c'est un message fort que je passe. La science, elle n'est pas derrière nous. Elle progresse tous les jours, et je conseillerais à d'aucuns de ne pas oublier que la science progresse dans leurs extrapolations à un siècle.
Alors, on en reparlera dans quelques instants. Auparavant, il me semble que cette découverte, ce mil, pourrait être utilisé aussi dans les médicaments. Alors, est-ce que là aussi, prudence?
Bien sûr.
Ou est-ce qu'au contraire, on est dans une autre démarche, puisque l'industrie pharmaceutique se développe tous les jours Donc, est-ce qu'on est dans la même configuration que celle que vous venez de nous donner exactement?
Oui, pour une autre raison. Parce que s'il y a un avenir dans le médicament, ça veut dire que les industries pharmaceutiques pourront acheter le produit brut, celui qui sort de la... Hein. Donc il y a déjà ce facteur temps. Mais en plus, vous savez aussi bien que moi, quand il s'agit de la santé, le fait de travailler sur les souris, c'est une chose. Je suis ravi pour la première fois de ma vie d'avoir des souris en pleine santé après avoir fait les tests de toxicologie. Mais après, on passe aux hommes. Et vous savez aussi bien que moi que la prudence des tests sur la santé, prudence justifiée, je ne parle pas de principe de précaution, mais de principe de prudent. Demande des années. Donc là aussi, il ne faut pas tromper les gens. Les problèmes techniques sont résolus. Les applications sont ciblées. Maintenant, pour passer de l'intéressant à l'utile, il y a une batterie de tests qui demande du temps pour ne pas tromper les gens. Donc, pour des raisons différentes, mes produits ne vont pas déboucher tout de suite s'ils débouchent. Je pense avoir été clair. Il faut bien prévenir les gens. Il ne faut pas raconter de salade aux gens. Le progrès existe, mais il faut du temps pour qu'ils le retrouvent, soit dans leur boîte de médicaments, soit à la sortie de leur pot d'échappement, etc. Les performances sont, pour l'instant, inégalées. Ça veut donc dire qu'il y a déjà des facteurs favorables pour le développer. Mais c'est l'économie qui dirige un monde, hein. C'est pas la découverte.
Alors, Gérard Ferret, nous arrivons au terme de notre émission. Auparavant, j'aimerais qu'on dise quand même quelques mots sur un autre mil qui s'appelle le mil 53. autrement dit, le matériau qui respire. Alors, j'aimerais quand même que vous nous en disiez 2 mots. C'est assez curieux, ce matériau qui gonfle.
Ah oui, c'est curieux, oui. C'est pas le 1053 qui est le plus spectaculaire, c'est le 1088. Parce que lui, il respire. Alors qu'est-ce que ça veut dire respirer? C'est-à-dire que sous l'action d'un agent extérieur, il gonfle. Il gonfle, et puis quand on retire l'agent extérieur, il revient à son état normal. Donc c'est en quelque sorte une respiration. Alors c'est d'abord une curiosité de laboratoire, mais ça peut devenir une application. Parce que avec le même produit, s'il était rigide, vous mettriez par exemple 100 grammes d'un produit quelconque. Comme il est flexible, vous allez en mettre 300 grammes. Parce qu'il gonfle. Donc, on en est là aussi au stade des applications. Mais oui, mais vous savez, les éponges, ça ne respire pas, les éponges, mais ça se contracte, ça se dilate, etc. Les couches, culottes, j'ai les bébés, ça se... Donc, mais c'est la première fois que des solides sont cristallisés et ont cette propriété. Donc, on a commencé par la curiosité de laboratoire. Maintenant, on travaille sur les applications.
Et le 1088, alors, vous en avez parlé à l'instant?
Oui, ben c'est la même chose. C'est comme le 1053, si vous voulez. Le 1053 augmente de 40% en volume. Le 1088 de 300%. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus spectaculaire. Un peu moins stable, mais beaucoup plus spectaculaire. Donc, là, maintenant, on fait une gamme, si vous voulez. Nous, on arrive à faire des produits sur mesure, hein, contrairement à la concurrence. C'est-à-dire que si vous me dites, je veux des diamètres de port de temps, on est à peu près sûr de pouvoir vous les faire. Mais maintenant, et vous savez, la recherche de nouveaux matériaux, elle se fait tous les jours. Vous savez, mes jeunes, mes petits-enfants, ils travaillent comme des fous là-dessus. Voilà.
Mais là, pour le 1053, on est déjà dans l'application commerciale, industrielle commerciale.
C'est lui dont on fait une tonne jour facilement. Le 1101, ça vient.
Terminons cette émission sur l'image de la chimie. Il paraît que la chimie est de plus en plus écornée, en tout cas son image, et que vous partez un peu en guerre pour réhabiliter l'idée qu'on se fait de la chimie.
C'est pas moi qui suis parti en guerre.
On vous a déclaré la guerre?
La chimie, vous savez ce que disait La Fontaine, ce pelé, ce galeux dont venait tout le mal. Eh bien, certains de nos collègues ont déclaré que c'était la chimie qui était responsable de tout, de la pollution, etc. Hein, avec des excès inacceptables. Et par contre, ils ont eu des échos médiatiques, bien sûr, on cultivait la peur, donc ça marche. Et la chimie a été accusée de tous les maux, et particulièrement en France. Attention, c'est pas un phénomène mondial. C'est un phénomène très français. L'Union des industries chimiques européennes a fait une enquête, il y a un an de cela, sur l'image de la chimie dans le public. Dans tous les pays européens, le pays qui a le plus d'empathie pour la chimie, c'est, ça ne vous étonnera pas, l'Allemagne, où 70% de la population est d'accord pour dire que la chimie est utile et qu'il faut surtout la préserver. En France, c'est 20%. On est à la queue du classement européen.
Alors, comment vous l'expliquez? C'est parce que les accidents...
Je vous dis, c'est un matraquage médiatique par des écologistes. Je ne fais pas de politique en disant ça. Il y a des écologistes de droite comme de gauche, mais ils se sont mis d'accord pour taper sur la chimie. D'accord? Et ça a trouvé un écho dans les médias. Donc, les gens écoutent les médias, les gens lisent les journaux et croient les journaux, sans essayer de faire la synthèse. Vous savez, moi, quand j'étais en classe de philo, on m'apprenait qu'il y avait une thèse. Alors les écologistes peuvent avoir la thèse de dire la chimie, ça vaut rien. Et il y a l'antithèse, à ce moment-là c'est moi qui essaie de prouver, et puis on fera la synthèse. Mais il faut pour ça que les gens deviennent raisonnables, et qu'on se mette autour d'une table, regarder les défauts, les qualités. Je ne vous présente pas la chimie comme la science parfaite. Bien sûr qu'on a fait des erreurs, mais nous on les a analysées. Et la chimie par contre, c'est la seule science qui apporte des solutions à l'avenir de la planète. Réfléchissez bien à ça, c'est la seule science qui peut le faire. Ah voilà, donc c'est une croisade, et l'année prochaine, il y aura l'année internationale de la chimie. Je peux vous certifier qu'on y travaille depuis 2 ans avec mes complices industriels, académiques, etc. Et on va inonder le territoire de manifestations pour expliquer au grand public, et surtout aux jeunes, que la chimie, pour moi, sans être un ayatollah, je dis qu'il n'y a pas d'avenir pour la planète sans chimie. Il faut bien penser à ça, avec tous ses défauts. Mais vous savez, l'idéal n'existe pas, hein. Et on ferait trop croire que l'idéal existe dans certains médias. Le dernier exemple. J'ai vu récemment dans un journal, titre pleine page, page 5, les bouteilles plastiques sont cancérigènes. Point. Affirmation. Quand vous lisiez l'article, c'était simplement l'élucubration d'un savant un peu allumé, que je connais bien en Allemagne, qui est le seul à défendre cette thèse. Bon, bien sûr, il a écrit un bouquin, il se tape tous les droits d'auteur parce qu'il cultive la peur. Mais c'est faux. Résultat des courses. Le marché des bouteilles d'eau a chuté de 20% en une semaine. Voilà ce contre quoi je veux lutter. Il ne faut pas raconter une fois de plus n'importe quoi au public. Il faut lui expliquer les avantages et les inconvénients, puis après on fait la balance. Moi, je suis un homme d'équilibre. Vous savez, en chimie, on travaille surtout sur les équilibres. Mais il faudrait que les gens en prennent conscience. N'écoutez pas les ayatollahs. Voilà.
Mais écoutez, message. Je pense que voilà, le message sera passé au cours de cette émission. Je vous remercie Gérard Ferret pour toutes ces explications et ce dynamisme dans vos propos. Je pense que même les gens qui ne sont pas forcément très attirés par la chimie, grâce à vous, en comprendront un peu plus ce qu'est la chimie.
C'est tout ce que je souhaite et je vous remercie de m'avoir invité.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.